tu n'as qu'à attendre une bonne chanson pour cet enfant.
Boum.
Une chanson? Pourquoi faire?
Pour la chanter.
Boum. De ces chansons originales qu'on a déjà l'impression d'avoir entendu quelque part et qu'on retient tout de suite parce qu'on s'en souvient aussitôt.
Boum. Boum.
Boum.
Boum. Boum.
Boum.
Boum.
Chanson Boom, le magazine de la chanson de France Culture.
Boom, 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 boom.
Un divertissement proposé par Hélène Azéra.
Boom.
Boom, boom.
Bonsoir, chères auditrices, bonsoir, chers auditeurs, amis de la chanson, bonsoir. Il y aura peu de chansons dans l'émission de ce soir et beaucoup de musique pour illustrer un genre qui, aujourd'hui encore, symbolise la musique française populaire de la première moitié du XXe siècle. Le dénéchaud jazz musette ne fait pas de la reconstitution. Il évoque l'esprit de cette musique des bals parisiens qui se répandit partout dans l'Hexagone. Mais commençons par une chanson du studio 107, le studio Mireille de Radio France, à Paris la nuit, d'Eugène Gavel et Seider, avec Ophélia Barr chant, Denis Gérard banjo, Daniel Dénéchaud accordéon et Robert Santiago au jazz.
Rendez-vous des purs, des as, des plus chouettes. C'est à la Bastille, tout près de la Roquette. Le nouveau quartier des vraies balmusettes, où tous les rupins, le haut du gratin, viennent voir les coquins. Dans la rue de l'Arbre, quand vient la nuit, les peinards s'avancent et glissent dans l'ombre sans faire de bruit, sifflant une danse. Puis vont aux musettes faire à petits pas la valse des frappes, et serrent dans leurs bras jusqu'au petit jour des belles gosses d'amour. Dans la rue de l'Arbre, il arrive souvent comme on y chahute, pour le cœur d'une femme, deux hommes se disputent. On sort dans la rue, ça ne dure qu'une minute, car sitôt dehors, on reconnaît cet or et l'on se met d'accord. Dans la rue de l'Arbre, quand vient la nuit, les peinards s'avancent et glissent dans l'ombre sans faire de bruit, sifflant une danse. Puis vont aux musettes faire à petits pas la valse des frappes, et serrent dans leurs bras jusqu'au petit jour de belles gosses d'amour. Dans la rue de l'Arbre, il y en a d'autres qui vont entraînant leur peine, coucher tout l'hiver au bord de la Seine. Mais les affranchis trouvent ces berges malsaines, et mieux que sous les ponts se bercent au son des accordéons. Dans la rue de l'Arbre, quand vient la nuit, les peinards s'avancent et glissent dans l'ombre sans faire de bruit, sifflant une danse. suivant aux musettes, faire à petits pas la valse des frappes et serre dans leurs bras jusqu'au petit jour des belles gosses d'amour. Dans la rue de l'Ape.
Alors, vous n'avez plus qu'à passer au micro où l'on parle. On va se serrer un petit peu. Je vais prendre Ophélia à côté de moi. Voilà, on fait front. Vous avez bien dit, j'ai dit, vous faites pas de la reconstitution, mais vous essayez de retrouver l'esprit.
Oui,
c'est un peu ça.
Oui, c'est ça, on essaye de retrouver le son, le son des orchestres du début du siècle, des orchestres musettes de la Bastille. Mm-hmm. Et pour ça, on a aussi des instruments d'époque. Mm-hmm. Et puis, je me suis fait refaire un accordéon comme il était joué aussi un peu à l'époque par des créateurs du style musette, dont Émile Vacher, qui est un accordéon mixte.
Voilà, c'est ça, mélange chromatique et diatonique.
Voilà, il est diatonique à la main droite, il a deux notes par bouton selon que l'on ferme ou que l'on ouvre le soufflet, et puis il a une seule note par bouton, il est unisonore, comme on dit, au niveau de la main gauche, comme les accordons chromatiques. Il est à moitié diatonique, à moitié chromatique, voilà.
Il y a une légende de la création du style musette où ce sont les Auvergnats qui sont venus creuser le métro en étant très mal payés à Paris, qui ont leurs espaces où ils se retrouvent avec la musique auvergnate. Et il y aurait le célèbre Peguri, un Italien accordéoniste qui serait arrivé dans ce bal et puis il y aurait un mélange. Puis ensuite, ça s'est saupoudré d'autres influences. Quand est-ce que le banjo est arrivé, monsieur Denis Gérard? Vous avez retrouvé à quelle époque cet instrument est là?
Je pense qu'il est venu après la guerre de 14.
D'accord, c'est les Américains qui sont arrivés avec le banjo et il a été récupéré.
Il voulait faire plus de bruit qu'une guitare.
Ah, vous croyez que c'était ça au départ?
Oui. Bah, je pense, parce que...
C'est aussi plus rythmique.
La
c'est...
guitare n'a pas beaucoup de volume, alors qu'un banjo... Ça claque,
il y en a beaucoup.
C'est mieux. Avec un accordéon, guitare d'époque avec un accordéon, on ne l'entend pas beaucoup.
Il y a aussi un côté rythmique
du
banjo. C'est presque autant une percussion.
Oui, oui. Mais j'en joue très sommairement. Hein.
Comment vous êtes retrouvé
Alors,
sommairement.
C'était dans les années 80, j'étais fan du répertoire des musiques traditionnelles plutôt, et en fait je me suis intéressé aussi en même temps, donc en faisant des recherches sur la musique auvergnate, j'ai découvert les bals musettes tenus par les Auvergnats dans lesquels les Italiens étaient arrivés, et donc suite à ça je me suis intéressé aux musettes et j'ai eu la chance de rencontrer Denis Gérard ici, qui est la première personne avec qui j'ai pu jouer ce vieux répertoire musette, parce que je crois que je devais être un peu le seul à faire ce répertoire qui n'était pas des standards et que j'avais retrouvé sur 78 tours ou partitions. Donc voilà, Denis, c'est la personne avec qui j'ai joué le tout premier répertoire. Et puis après est arrivé Didier Roussin, qui avait...
Alors on va lui rendre un grand hommage. C'était un guitariste, c'était un érudit, un historien. Je crois que j'avais écrit qu'il parlait comme un voyou, mais jouait comme un prince. Il y a eu en fait... Alors moi, en tant que vague critique qui n'y connaît rien, comme beaucoup de critiques, ce que je vois, c'est que tout d'un coup, il y a deux générations qui se sont rencontrées. Donc cette génération des années 80, qui tout d'un coup... et aller voir les accordéonistes plus anciens pour leur tirer des informations. Ouais. Mais tout d'un coup, c'est deux générations. J'aime pas le conflit de générations. C'est évidemment toujours mieux quand les générations jouent ensemble. Il y a quelque chose de fort. Et il y a eu un espèce de petit miracle autour de
cette rencontre. C'est d'autant plus drôle que la génération dont je suis parti, et puis Robert, tout ça, c'est qu'on n'aimait pas l'accordéon quand on était jeune.
Oui,
c'est surtout ça qui est drôle, c'est que dans les années 80, on a découvert un instrument qu'on n'aimait pas.
Le yéyé s'est fait contre l'accordéon et en partie le jazz, les jazz français, alors qu'aux États-Unis, dans leur l'orchestre de Duke Ellington, il y avait un accordéoniste, etc.
Mais c'était l'instrument mal aimé, quoi. Oui. Dans ces années-là, dans les années 60, il était mal aimé. Donc, mais c'est la même histoire hein, en France, aux États-Unis. Les accordéonistes, à l'époque, ont tous rangé leur accordéon dans une valise et n'y ont plus touché. Ou ils ont retouché après avec des accordéons électrifiés, avec des sons plus ou moins, plus ou moins heureux. Didier Roussin était donc quand même un... qu'on dit catalyseur, peut-être là-dedans, puisqu'il était guitariste de Joe Privat, il était la génération plus jeune, et lui était ouvert sur les musiques traditionnelles, et puis jazz et tout, et donc, grâce à lui, je crois, il y a pu y avoir ses premiers disques de Paris Musette, qui ont été vraiment des détonateurs dans cette histoire, c'est que des générations plus jeunes, de guitaristes et autres, ont pu ont rejoué avec des accordéonistes qui avaient déjà un peu de la bouteille. Et voilà, c'est parti de là. Et puis nous aussi, avec Robert, on est quand même des gens qui sont issus aussi de l'accordéon diatonique. Et on était intéressés par les musiques traditionnelles. Et on a retrouvé l'accordéon par le biais du diatonique. Et après, suite à ça, on a compris que le chromatique, c'était intéressant aussi.
Oui, vous êtes passé des cajuns aux musettes, quoi. C'était un peu ça. Il y a eu un accordéoniste extraordinaire. Je ne sais pas s'il est... Il est en tout cas Zydeco, hein. C'était Clifton Chenier. Qui tout d'un coup aussi a changé. On avait un noir magnifique qui arrivait avec un magnifique accordéon et tout d'un coup, ah ben peut-être que c'est pas si ringard que ça l'accordéon. Ça aide toujours quand ça vient de l'extérieur vrai, pour vous dire vrai. Que vous avez des choses très belles.
Voilà, c'est ça. En plus, c'était du blues, c'était du c'était presque rock et tout. Donc ça, bon, on s'est dit, tiens, l'accordéon avec un accordéon touche piano, on peut faire des choses.
Alors, ce qui m'intéresse dans votre démarche, c'est que vous faites pas que de la reprise, vous faites aussi vos propres compositions. Donc c'est pas un produit mort. Cette musique musette que vous brassez dans vos mains.
Je pense qu'il n'y a qu'en France qu'on croit que c'est une musique qui peut être morte, parce que l'étranger, ce n'est pas le cas. Vous allez en Europe du Nord ou au Japon, il y a des fans de musette. Hein, donc, mais c'est vrai que nous, on compose aussi. Robert est aussi un compositeur. Là, dans le dernier disque, il a pas mal pondu.
Eh bien, on va écouter, justement, de Robert Santiago et Daniel Sénéchaud, la valse parisienne.
We'll be right back.
c'est une composition actuelle, et puis vous êtes un peu amusé à y glisser des petits airs un peu auvergnats.
Oui, ça c'est...
On remonte aux origines, là.
On remonte aux origines. En fait, j'ai écrit la première partie, enfin, travaillant mon instrument. J'ai trouvé cette valse que je trouvais très parisienne, et je l'ai écrite en pensant à Michel Esbelin, qui joue la cabrette avec nous. Oui. Et ça devrait bien sonner sous les doigts de Michel. Et puis, j'ai envoyé cette première partie à Daniel. Je lui ai dit, si tu veux, tu continues l'inspiration. Et il a mis derrière une influence beaucoup plus auvergnate. Et on se retrouve avec quelque chose qui est très respectueux d'une certaine musique qui était jouée dans le passé. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est une musique qui est complètement actuelle, quoi. Moi, franchement, avec Donner Chose à Jazz Musette, on fait de la musique actuelle. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir, c'est clair et net, quoi.
Heureusement, ouais, oui. Ouais. En même temps, c'est intéressant de se poser des questions sur l'histoire. C'est pourquoi, quand l'accordéon arrive, justement, la cabrette, elle finit par disparaître.
En fait, non, c'est une histoire d'argent, tout simplement. C'est que les musiciens italiens qui arrivaient avec un instrument nouveau qu'on n'entendait pas dans les bals musettes, puisqu'on entendait la cabrette, la vielle, le violon, peut-être un peu de percussion, voilà.
Et les cloches.
Et oui, c'est ça, les clochettes, les sonailles aux pieds. Non, l'accordéon va arriver, et c'est un instrument qui était oublié dans la capitale depuis à peu près la guerre de 70. Faut oublier que sous sa forme primitive, l'accordéon meurt à Paris à la guerre de 70.
Après avoir été un instrument de salon.
Complètement,
qui était plutôt
un
instrument aristocrate.
Qui était complètement un instrument gros bourgeois ou aristo. Oui. Les enfants de Louis-Philippe, de Charles X jouaient de l'accordéon, faut le savoir. Premier concert d'accordéon à la salle Pléiade.
C'est pour ça qu'ils ont fait la révolution.
Peut-être un peu.
C'est pour les chasser.
Et en fait, les musiciens italiens venant travailler à Paris avec des accordéons, qui est un instrument moderne dans l'air du temps, et en plus c'était des gens qui n'avaient pas de revendications syndicales, parce qu'à l'époque, quand les accordéonistes italiens sont arrivés, les Auvergnats s'étaient constitués en association avec des revendications sociales, minimum syndical pour la paye, un temps de travail limité, voilà. Alors que les Italiens, quand ils sont arrivés, ils n'avaient aucune revendication, et c'est ainsi que l'accordéon a supplanté très facilement la cabrette, quoi.
Au début, les accordéonistes sont italiens, mais Vacher n'est pas italien. Très vite, on a des grands accordéonistes qui ont d'autres origines.
Ben oui, la mode cédant. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui étaient cabretaires qui sont passés à l'accordéon sans aucun problème. L'exemple le plus célèbre, c'est Martin Caïla. Qui était un des plus grands cabretaires auvergnats et qui est devenu
éditeur
et accordéoniste.
Martin Caïla.
Mais c'est tout à fait typique de cette période où la cabrette, elle n'est plus à la mode, elle est poussiéreuse, elle est terminée.
Elle reste au pays quand même.
Elle va rester au pays, mais elle va rester aussi dans des
balles
auvergnats qui seront tout à fait typiques.
Voilà.
C'est ça. Où c'est bien spécifié à l'entrée, vous n'entendrez jamais l'affreuse accordée.
Alors on va écouter une autre chanson. Ça c'est une chanson de répertoire. Alors c'est pas n'importe quel musicien, c'est Alston qui a écrit un des grands succès de la chanson française qui s'appelle Symphonie. Symphonie, symphonie d'un soir que les G.I. ils ont ramené aux États-Unis. C'était un succès mondial et qui a écrit la première chanson de Linda De Souza. Il était très âgé. Ça a quand même fait un succès. La Java d'un soir, donc d'Alston, par le Donner Chose Jazz Musette.
Thank you.
Restons dans le répertoire ancien du studio 107, les Papouilles javanaises d'Eugène Lemercier et Jean Nelly, chanté par Ophélia Barr, Robert Santiago sur son jazz, Daniel Dénéchaud à l'accordéon et Denis Gérard au banjo.
On ne parle dans mon quartier que d'un type qui n'est pas sorcier, mais fait des conquêtes dans les bals musettes. Il n'est pas beau comme un dieu, c'est pas un gars du milieu. Il paraît même qu'il est fauché et pète par-dessus le marché. Mais un jour la bonne Clara en cachette nous déclara: si qu'on l'aime, apprenez-le, mais c'est parce que il nous fait des papouilles javanaises. Plot et plot et plot par-ci, plot et plot et plot par-là. Il nous fait ce qui rend les femmes bien aises, des papouilles à volonté, il devrait les faire breveter. Le gros Charlot, le petit Julot, le grand bébert de la Maubert disait: oh oh, ce gigolo connaît son boulot. Ah ah ah, les papouilles javanaises, plot et plot et plot, c'est bon pour la repopulation. Ah, ah. Moi j'ai comme voisin du dessous de gentils nouveaux époux dans ce jeune ménage, et c'est bien de leur âge. C'est toujours la lune de miel, nuit et jour ils montent au ciel. On entend à tous les moments des rires et des roulements. Chaque locataire reste quoi en se demandant pourquoi. Moi je leur dis: gros bêta, vous ne devinez pas. Il lui fait des papouilles javanaises, plotte et plotte et plotte par-ci, plotte et plotte et plotte par-là. Il lui fait ce qui rend les femmes bien aises, des papouilles et ce petit jeu, ça fait enfler comme un pneu. Le vieux rentier qui est au premier, l'ancien dragon Calito second, le proprio dans son studio, disent avec brio: ah ah ah, les papouilles javanaises, plot et plot et plot, c'est bon pour la repopulation. La chanson que je viens de chanter comporte une moralité, prêtez-moi l'oreille, elle est sans pareille. Elle s'adresse aux amoureux qui sont ici très nombreux, aux jeunes gens comme aux vieux barbons aimant le sexe en jupon. Cette moralité la voici: quand vous sortirez d'ici, prenez en faisant les yeux doux votre femme sur vos joues, et faites-lui des papouilles javanaises, plot et plot et plot par-ci, plot et plot et plot par-là. Et faites-lui, les femmes en sont bien aises, des papouilles encore encore, et vous serez toujours d'accord. Que les amants toujours charmants, que les maris tout abougris, avec ardeur et tout sans peur, poussent ce cri du cœur.
Cher Dénéchaud Jazz Musette, l'heure est à la confrontation avec le passé. Je vous propose d'écouter une très grande chanteuse qui a chanté énormément dans le Musette. Quand on regarde les accompagnements, le plus souvent c'est accordéon, banjo, banjo, accordéon, etc. Des grands auteurs lui ont écrit, comme Le Noir, Monsieur, parlez-moi d'amour. Cette chanson est une chanson qui est vraiment tragique à écouter, puisque elle partageait sa vie avec l'accordéoniste Gagliardin, qui avait été blessé à la suite de la guerre de 14-18 et qu'il était d'une jalousie maladive et qu'il a fini par la tuer et se tuer et mettre le feu à la guinguette qu'ils possédaient ensemble. Et cette chanson semble une chanson totalement prémonitoire. Tu devrais m'aimer tendrement, Maggie Fred, 1932.
Depuis que nous sommes sommes ensemble et que je t'aime éperdument. Nuit et jour près de toi je tremble, j'ai peur de ton baiser d'amant. Tu devrais m'aimer autrement. Quand mon cœur a soif de tendresse, mes fièvres brutales et déments, tu me meurtris sous ta caresse. Je te vois venir avec crainte, tu me prends si brutalement que j'ai peur de ta rude étreinte. Tu devrais m'aimer autrement. Toujours tu le sais bien, je cède et m'offre à ton désir ardent. Je frémis lorsque tu possèdes mon corps brisé, mais cependant tu devrais m'aimer autrement. Quand mon cœur a soif de tendresse, de baisers donnés doucement, de mots jolis et de caresses. Mais toujours volage et frivole, tu te ris de mes beaux serments. Alors tout mon bonheur s'envole. Tu devrais m'aimer autrement. Que m'importe un instant d'ivresse, si ce frisson doit me coûter le dégoût d'être ta maîtresse et l'horreur de ma lâcheté. Tu devrais m'aimer autrement. Quand mon corps a soif de tendresse, mes fièvres brutales déments, tu me meurtris sous ta caresse. Je te vois venir avec crainte, tu me prends si brutalement que j'ai peur de ta rude étreinte. Tu devrais m'aimer autrement. Mais toujours volage et frivole, tu te ris de mes beaux serments. Alors tout mon bonheur s'envole. Tu devrais m'aimer autrement.
C'est du style Musette, il n'y a pas à
ouais,
dire.
Complètement, ouais.
Et les musiciens, bon, Vessade, bon, il a quand même laissé un nom dans,
oui,
dans l'accordéon.
Et là, on entend l'accordéon et la voix, et à cette époque, l'accordéon est toujours à la recherche de la voix, je trouve.
Oui.
Il y a plein d'enregistrements où l'accordéoniste joue comme les chanteuses ou comme les chanteurs. Après, après ça se développe plus dans un style accompagnement,
oui,
mais quand j'entends surtout les valses ou des airs assez lents, ou des enregistrements avec frêle, avec l'accordéon derrière, l'accordéon respire un peu et fait des phrasés un peu comme la chanteuse.
Il suit, en fait.
C'est proche de la voix.
L'accordéon, à cette époque-là, pas de contrepoint proche, ou...
Non. Souvent, il est à l'unisson, en fait, mais avec des tenues de notes qui sont un peu celles de la personne qui l'accompagne, quoi. L'accordéon, à cette époque, proche de la voix, pour moi.
Bah, l'accordéon a été créé pour imiter la voix humaine, faut pas oublier.
Alors, nous sommes sur France Culture, l'émission s'appelle Chanson Boom, et j'ai l'honneur et l'avantage de recevoir le dénécho jazz Musette pour son disque Amour Java. Voilà. Alors, quand on prend le répertoire ancien, c'est ça qui est intéressant. Vous avez une très bonne chanteuse. Vous faites pas d'imitation, là non plus. Vous essayez pas d'imiter la gouaille. Et moi, je dois dire que le plus souvent, quand les gens essayent, la gouaille, c'est pas le dégueulis. Ce qui est pas le cas.
C'est comme la Java. Quand on danse la Java, souvent, elle est caricaturée. Elle devient vulgaire. Quand on voit des bons danseurs de Java, c'est tout dans... Enfin, je fais un peu le rapport, c'est plutôt dans la finesse, oui. Dans un léger déhanchement, c'est le petit truc parisien, juste un petit truc, c'est pas de l'exagération, quoi. Mais de toute façon, Ophélia n'aurait pas voulu, je crois, chanter avec un...
Elle ne roule pas les airs.
Et je fais ce que je peux. disons que pour moi, le style musette, c'est une culture. J'en ai la culture parce que j'en ai écouté très jeune. Voilà, le premier album du Dené Chaujaz Musette, je l'ai écouté en boucle. C'était il faisait partie de toute cette génération de Paris Musette qui a remis au goût du jour dans les années 90 le Musette et où on s'est dit tiens, ça c'est intéressant, cet album dépoussière le style Musette. Il y a plein de jeunes comme moi, parce que j'étais quand même assez jeune quand j'entendais ça, qui se sont intéressés à ce style-là, qui du coup en ont pris leur parti, je pense.
On a l'impression que pour vous, cette musique a sa noblesse et vous essayez de la faire passer.
Moi, quand j'ai commencé à retravailler ce tout premier répertoire musette, en écoutant des 78 tours et en prenant des partitions que je trouvais opus, j'avais envie de montrer ce que c'était que cette musique au départ, parce que le musette c'est tellement après, on l'a entendu toutes sortes de musettes, on pourrait dire, des sons
avec une grande décadence dans les années 60.
Voilà, c'est ça, et puis avec des sons d'accordéon qui étaient des fois un peu insupportables pour l'oreille, et puis un répertoire qui n'était pas spécialement un répertoire musette, un répertoire d'accordéon, adapter les Beatles avec un accordéon pour jouer en balmusette, c'est pas tellement une initiative, moi, qui m'intéressait. Donc, j'ai envie de faire connaître ce tout premier répertoire musette.
En même temps, à cette époque, les grands standards américains ou espagnols, ils arrivaient dans les bals musettes.
Oui, ils arrivaient aussi, mais le musette était quand même marqué déjà par... Surtout, comme disait mon ami Didier Roussin, par la musique alpine. C'est-à-dire que les valses musettes sont des valses en trois parties. Par exemple, des changements de tonalité, comme on peut retrouver dans des valses viennoises et des choses comme ça. Il y avait quand même, c'était ancré quand même dans un répertoire parisien, quoi.
Alors, dans les rumeurs qui courent sur cette musique, on dit, ce sont les Roms, ce sont les Manouches qui ont amené le jazz. C'est eux. Ils vivaient sur les boulevards extérieurs en roulotte. Et ils connaissaient déjà, ils avaient eu vent. Je ne sais pas comment ils pouvaient écouter ces disques. Visiblement, ils aimaient beaucoup la musique et les gens qui aiment la musique, ils savent trouver la bonne. Et ce seraient eux qui auront amené le petit tempo de jazz dans la musique.
Oui, en fait, les manouches, les gitans qui vivaient sur la zone, c'était aussi... comment dire, une espèce de vivier où les chefs d'orchestre allaient piocher. Il y avait des bons musiciens qui étaient pas chers. C'est-à-dire que je parle que d'argent, mais oui, c'est un peu ça.
Il doit être bien quand il négocie ses contrats, celui-là.
Non, mais c'est vrai que c'est voilà. Bon. Mais ce qu'il y a, c'est que souvent, ces gitans, ils étaient guitaristes. Mm-hmm. Et quand ils arrivaient aux musettes, au début, en particulier des gens comme Django ou les frères Ferret, on les employait pour jouer du banjo. Banjo, effectivement, qui est un instrument plus puissant que la guitare. Il faut un instrument puissant pour passer au-dessus du timbre de l'accordéon, surtout quand il est avec une voix très musette, très mouillée, comme on dit. Mais le problème, c'est que les manouches, pour pas perdre l'affaire, jouaient le banjo, mais ne rêvaient que de jouer de leur instrument, c'est la guitare. Et au bout d'un moment, les manouches ont imposé, en fait, un duo de guitare plutôt qu'un seul banjo. D'après la légende, c'est Guérino qui aurait le premier fait appel à des musiciens manouches pour en remplacement du banjo, mettre deux guitares à la place.
Ce qui est intéressant, c'est que le stéréotype Rome égale violon, on le retrouve pas.
Pas à Paris, non.
Non.
Ouais. Pas à Paris, plus en Europe de l'Est, mais pas ici.
Une autre influence, ce sont les influences hispaniques, parce que aussi il y a une population importante à Paris. Et là, on va écouter une de vos compositions, puisque vous aimez bien rendre hommage justement aux influences hispaniques d'Amérique du Sud, et parfois bidon. Comme le fameux sombrero et mantille.
Il y a plein d'exemples. Non, là, le passo doble, moi, je me suis amusé à composer un passo doble et puis aussi à écrire les paroles qui sont un peu toujours un peu ridicule, disons, un peu... Enfin, ridicule, non, on ne peut pas dire ça.
Humoristique, en tout cas, vive la chanson ridicule.
J'ai essayé de faire, oui, c'est ça, moi j'aime...
Vive la chanson idiote, on va le dire.
Et en fait, c'est ça, plutôt ça. C'était idiote que je voulais dire.
Quand même, décrivez-moi votre instrument qui luit, puisqu'il y a une lampe derrière...
Lampe à l'intérieur de la grosse caisse.
Oui.
Et à l'intérieur de la caisse claire. Donc l'instrument, oui, c'est un jazz qui a été fabriqué dans les années 30.
Alors la chose qui est intéressante, c'est qu'il y a le côté gros instrument sur qui on tape, mais juste derrière, il y a un tambour.
Voilà, on a une petite caisse claire.
Ils n'ont pas lâché complètement
Absolument pas, c'est une véritable batterie, mais avec des éléments plus simples que la batterie de jazz pour faire gros, quoi. En fait, on a une grosse caisse qui est vraiment grosse, une petite caisse claire qui est assez haute, donc qui a plutôt le timbre d'un tambour qu'une caisse claire, un tambour militaire, on dira. Les cymbales, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont accrochées par une lanière sur des cols de cygne. Mmh. C'est très visuel, mais en même temps, pour le batteur, c'est pas évident, parce que quand on tape sur la cymbale, faut attendre qu'elle soit revenue, parce que quand vous avez tapé dessus, elle est partie, la cymbale. L'interprétation reste. Il faut attendre qu'elle revienne pour pouvoir taper dessus à nouveau. Donc c'est un instrument relativement aléatoire. Donc on a aussi des woodblocks très importants aux musettes. Et j'ai le luxe d'avoir rajouté une cloche qui est bien pratique pour certains passodobles. Un autre élément intéressant de cette batterie, et je l'ai trouvé dans son jus, comme on dit en brocante, il y avait ce qu'on appelle la soc cymbale. C'est une pédale Charleston, mais qui fait 25 cm de haut. D'habitude, la pédale Charleston est très haute pour que le musicien puisse taper dessus. Là, c'est impossible. Elle est tout à fait à ras-terre. Et en fait, avec les pieds, on a une boîte à temps qui est la grosse caisse, une boîte à contre-temps qui est la soc cymbale. Et voilà, la technique se réduit là dans le jazz.
Quoi. L'instrument s'est acclimaté. C'est un instrument qui vient des États-Unis. Si je ne
à l'origine, dit, ou... oui. Enfin, la légende, pareil.
C'est
dit
la guerre
que,
de 14.
Voilà, c'est la guerre de 14. Les premiers orchestres de jazz qui apportent donc la batterie. Et d'ailleurs, les musiciens de musette pas très fins, ils ont confondu le nouvel instrument et le nouveau style de musique qui est arrivé. Donc c'est pour ça que la batterie, on appelle ça un jazz. Là, c'est tout simplement les Mais d'après des photos que j'ai pu voir dans quelques collections, en particulier la collection de Philippe Krum, on voit qu'en fin 19e siècle, même dans nos provinces françaises, il y avait des gens qui avaient déjà inventé la batterie. Enfin, ce qui ressemble un peu à une batterie, avec une caisse claire, une grosse caisse, une petite cymbale par-dessus. Donc je pense que, comme beaucoup d'inventions, ça explose à plusieurs endroits du monde en même temps, quoi, parce que c'est dans l'air du temps, tout simplement.
Maria Tortilla de Robert Santiago par le Dénécho Jazz Musette. Thank you.
gnocchiote. Non, ça n'est pas de la gnognotte. Elle y met toutes les épices qu'il faut.
Beaucoup de poivre et de piment pour rendre les hommes contents.
Maria est la reine de notre tequila. Voilà.
Chers amis du Dîner Chaud Jazz Musette, est-ce que les gens savent encore danser?
Alors,
le Paso Doble, j'espère, oui, quand même.
Alors, on était surpris, c'est qu'on a joué à la fin de l'année dernière à Montreuil, Montreuil, oui, en banlieue. On a joué des Java avec, pour un public qui avait déjà un certain âge.
Oui.
Et ils ne dansaient pas la Java. Ben. Et là, on s'est dit, effectivement, la Java, c'est plus leur génération. Eux, c'est les débuts du rock'n'roll. Donc, les gens qui sont en maison de retraite.
Ou le foxtrot, le. Mm. Les Fox, les...
Ouais, non, là, c'était... Non. Voilà. Donc, ceci, on en trouve hein, toujours des gens qui savent danser. On a, pour la sortie de notre disque, on a joué au tango, là, à Paris. Plein de bons danseurs qui savaient danser, la Java. Et,
oui.
Qui étaient plus jeunes, oui. Donc, il y a toujours des gens de génération plus jeune qui continuent à apprendre à danser, effectivement, ouais, qui dansent aussi le foxtrot et la Java et tout ça.
Mais la Java, elle a quand même un mystère, elle a un charme très, très particulier, elle est un peu coquine quand même, il faut le dire.
Elle est sous-entendue, sûrement. C'est une musique typiquement parisienne, hein, c'est une danse créée à Paris, ça. Mm-hmm. Alors, toujours mystère autour de la Java, d'où ça vient, d'où vient le nom, il y a plusieurs hypothèses sur le nom, l'origine de la Java, on ne sait pas bien. Moi, je penche sur l'idée que il y a eu les expositions universelles à Paris avec les danseuses balinaises et javanaises qui sont venues, qui ont beaucoup cartonné. Mm-hmm. Quand on lit des articles de presse de l'époque, on voit que les danseuses javanaises ont beaucoup marqué. Donc il y a eu une mode un peu de ça.
Il n'y a pas eu que Debussy.
Je pense qu'après, donc il y a eu cette fameuse opérette là, Max Derli, Mistinguette, tout ça, ou
La valse
chaloupée, voilà.
Oui.
Et je pense que le mot javanais, on a mis javanais parce qu'il y avait cette mode javanaise. Je pense pour une nouvelle danse, on a mis un mot à la mode. Enfin, moi, je le ressens un petit peu comme ça. Maintenant, il y a plein d'autres.
En même temps, il faut le dire, un petit peu comme le jazz américain, ça naît dans les mauvais lieux, hein, ça, c'est certain.
Bah ça, c'est le Musette, hein, fait partie de ces musiques qui sont nées dans les capitales, dans les grandes métropoles, dans les quartiers populaires, dans les...
Enfin, le bal de la montagne Sainte-Geneviève, c'est le bal des prostituées et de leurs souteneurs. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Moi qui n'aime pas toujours qu'on tire vers le graillon les histoires, c'est quand même une réalité.
Oui, bien sûr. C'était aussi le public des bals Musette, c'était aussi ces gens-là, quoi. Mais pas seulement, mais
On va aller loin. Justement de ces lieux interlopes, avec justement encore une chanson qui essaye un peu une chanson, un morceau qui essaye un petit peu de regarder vers la musique auvergnate et qui s'appelle Lai Tournarem Papu. Excusez-moi, mon accent auvergnat est très mauvais.
Oui, c'est notre ami Michel Esbelin, qui est joueur de cabrette, donc qui joue avec nous depuis longtemps, puisque quand on refait, il nous arrive de faire des concerts-conférences. C'est-à-dire qu'on fait des concerts, en même temps, on explique comment est né le Musette à Paris, avec des anecdotes, des choses comme ça. Et toujours quand on veut raconter aussi l'histoire des bals auvergnats, d'où est né le Musette, Michel Esbelin vient avec sa cabrette. Et donc, il fait un petit regret, et puis une bourrée, la danse typiquement auvergnate, et voilà, c'est ce qu'on a fait.
Il y en a partout des bourrées, il y en a même de Jean-Sébastien Bach.
Ah oui, bah ça oui. Eh oui.
Yeah.
Moi, j'adore cette musique auvergnate aussi. Le passage de l'un à l'autre est absolument passionnant.
Les gens qui nous écoutent le savent peut-être pas. La cabrette, la cornemuse auvergnate s'appelle aussi la musette.
Oui.
Donc, c'est pour ça qu'il y avait les balles musette ou les balles à la musette à Paris, et qu'après, le style de musique joué à l'accordéon a pris le nom de musette. Et je dis aux jeunes qu'on dit le musette et pas la musette. On parlera de la...
Ah oui, le style de musique, c'est le musette.
Et l'instrument, c'est la musette.
Racontez-moi un petit peu vos aventures. Il vous arrivait de vous retrouver à côté de musiciens qui faisaient la même chose que vous, mais dans un autre style?
On a été surpris, c'est qu'au Japon, il existe un groupe de japonaises qui s'appelle La Zone.
Oui.
Elles ont trouvé le nom qu'on aurait peut-être dû trouver, La Zone. Et elles jouent du musette comme nous à l'ancienne. Et ce qui est terrible, c'est qu'elles ont fait deux disques. Et le deuxième disque, ce ne sont que des compositions de l'accordoniste. Et c'est vraiment dans le style musette des années 30. Quoi. Et c'est au Japon, quoi. C'est très drôle.
Pourquoi pas? Il y avait une chanteuse qui s'appelait Miwa, qui chantait très bien le répertoire musette, notamment « Je ne sais pourquoi j'allais danser », mais en japonais.
Oui,
Vous ne prenez pas de danseur dans votre spectacle?
Non, pas dans le spectacle, mais qu'on est demandé à certains endroits, des fois on nous demande, s'il n'y a pas avec nous des danseurs pour montrer un peu les danses, si les gens ne savent pas trop, oublier. Mm-hmm. Et on connaît entre autres à Paris un couple de danseurs qui font ça régulièrement et que, si l'occasion se présente, on fera bien sûr appel à eux.
L'association s'appelle Paris Ball.
On aime bien toutes ces anecdotes sur le musette et je trouve, question musicologie on en parle un petit peu moins parce que on va prendre Francis Lemarque. Bon, il y a une de ses chansons à Paris. C'est complètement yiddish la mélodie la la li 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 da 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 li da 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 li da da da. On est vraiment dans l'Europe de l'Est et en même temps, c'est une chanson tout à fait typique. Elle est musette en même temps cette chanson.
Mais c'est vrai qu'il a entendu, il entendait de sa fenêtre.
Il est né avec.
Il a vécu là son enfance, rue de Lappe. Donc, c'est des mélanges qui se font sûrement naturellement.
Comment cette musique assimile aussi vite les apports extérieurs et comment elle a réussi à ne pas tomber non plus dans une imitation?
Elle est tombée dans une imitation.
Ah oui.
À un moment, oui, c'est sûr que... Mais il faut savoir que Paris, c'est dans le bouquin de Varneau qu'on lit ça, Paris a toujours été un lieu où il y avait besoin de s'amuser, de danser... Et d'avoir des danses qui soient nouvelles. Ça a toujours été... Les Parisiens ont toujours eu besoin d'exotisme à danser, quoi. Et c'est comme ça que des choses aussi diverses et variées que le foxtrot, le passodoble. Le passodoble, c'est quand même de la musique d'arène. Ça n'a rien à voir. Et ça arrive quand même comme une fleur. Ici, le tango, pareil. Et puis après, toutes les formes qui peuvent se danser de près ou de loin, jusqu'à la lambada, à tout un tas de choses comme ça qui sont rentrées aux musettes sans aucun problème. Nous, on préfère la java, bien sûr. Mais comme quoi, le musette a été une espèce d'éponge comme ça. Et l'éponge, souvent, le problème, c'est qu'elle ne trie pas forcément ce qu'elle aspire.
Elle a fini par presque par se détruire elle-même.
Bien sûr, c'est ça le problème. C'est au bout d'un moment, effectivement, c'est pour ça que nous on essaie de recentrer sur, comme au rugby, on recentre sur les fondamentaux du musette. Donc c'est la valse, la java, le foxtrot, un petit peu de passodoble pour dire, un petit peu de tango parce qu'il faut bien, parce qu'il faut bien. Mais c'est amusant aussi le tango. Écrire un tango musette, c'est un exercice amusant.
Ce qui est rigolo, c'est que comme disait encore notre ami Didier Roussin, le tango, c'est la seule musique où il n'y a pas d'humour.
Sauf au
tango. Dans le tango musette, il y a de l'humour. Mais le tango argentin, c'est pas vraiment drôle, quoi.
Oh, puis, Fréhel, c'est une bonne tanguiste, hein.
Ce n'est pas possible.
Je vois des larmes dans tes yeux. Toi, dans le cœur, est insensible. Tu peux pleurer assez curieux. Pleure! Car maintenant, c'est... Non, mais c'est intéressant aussi.
Je serais plus d'accord avec Trenet qui disait « Ne reviens jamais, horrible tango qui sent le mégot et la pompe funèbre ».
C'est formidable le tango parce que c'est une musique d'un pays qui était quand même pas si riche que ça et qui a fait le tour du monde, un peu comme le reggae. Voilà, c'est un pays pauvre, ou comme la musique de Cuba, ça fait ensuite... Alors que le musette, bon, à part de charmantes japonaises...
Si, on en...
On m'a dit que Hassan II, le roi du Maroc, était un fou de musette. Je crois qu'il y a même un accordéoniste qui a écrit des souvenirs un peu scabreux sur son passage à la cour du Maroc.
Oui. J'ai lu aussi le livre.
Voilà, bon, on va éviter les incidents diplomatiques. Vous allez retourner vers le micro d'où l'on chante et nous chanter « J'ai un faible pour l'effort ». On va résumer. Vous avez au banjo Denis Gérard, à l'accordéon Daniel Dénéchaud, au jazz Robert Santiago et au chant et aux castagnettes Ophélia Barr.
Des hommes bien balancés, je ne vois que ça dans mon passé. Depuis Toto, roi du Sébasto, jusqu'à mes cocos, priseurs de coco, les demi-quarts de portion n'ont jamais fait ma passion. Les petits chétifs qu'on prend par les tifs n'ont jamais tâté de mes voluptés. Tout mon corps, mes trésors, n'ont été. J'ai un faible pour les forts. J'aime les toréadors, tous les picadors, tous les matadors, tous les matamores. J'ai un faible pour les forts. Oh, petites gueules en or, je préfère le butor, le bandit arsor et la vache qui mord. J'ai un faible pour les forts, ceux-là dont le couteau sort, les cogneurs à mort, tous les mecs du plomb, tous les gars de chambre. Les tateurs, les étons, les ténors, les pétors, les pollux, les castors et les sergents-majors.
Et les conquistadors.
Lorsque je lis des romans, je pense différemment. J'aime le héros malingré palot, le poète fatal et sentimental. Quand je vais au cinéma, c'est la victime qui m'a. Je pleure sans peur quand Gary Cooper, en beau pullover, agonise et meurt. Mais dans l'intimité, pour les forts, j'aime les toréadors, tous les picadors, tous les matadors, tous les matamores. J'ai un faible pour les forts, aux petites gueules en or. Je préfère le butor, le bandit arsor et la vache qui mord. J'ai un faible pour les forts, ceux-là dont le couteau sort, les cogneurs à mort, tous les mecs du port, tous les gars de chenor. Ceux-là qui crient encore au cri, donne-moi encore ton regard de ténor et ta petite gueule qui mord. Oh mon conquistador!
Le CD des Dénéchaud Jazz Musette Amour Java est disponible chez budamusique.com. Ils seront le 10 juin à Nogent-le-Retrou au festival à portée de voix. Vous pouvez en savoir beaucoup plus et regarder de belles images sur leur site internet jazzmusette.com. Vous pouvez écouter, réécouter, télécharger cette émission sur le site internet de France Culture. C'était Chanson Boom, Claire Poinsignon, Patrick Molinier, Hélène Azera, prise de son Philippe Redin et Éric Villenfin. Passez la monnaie, bonne nuit à l'écoute de France Culture.